marche du monde. Valérie Nivelon.
La marche du monde en reportage à Nantes, premier port négrier de France au XVIIIe siècle, à l'occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.
Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d'abord remercier Madame la maire pour son invitation à venir commémorer ici à Nantes la 11e journée de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. J'aimerais également remercier Madame Françoise Vergès qui œuvre inlassablement à la reconnaissance de cette histoire et qui a contribué à la conception de ce mémorial. Ces trois jours que j'ai passés ici ont pour moi été riches d'enseignements. J'ai rencontré plus de 450 jeunes venus de toute l'agglomération. À travers leurs questions et leurs témoignages, j'ai pu constater combien la problématique qui fait le thème de cette année, le combat contre le racisme anti-noir, leur est sensible. Je tiens donc par conséquent à saluer le travail exemplaire qui est fait par la mairie de Nantes autour de la mémoire et de la compréhension de l'esclavage. Et j'espère, en tout cas je fais le vœu ici, que toutes les villes de France, même celles dont l'histoire ne porte pas directement la trace de la traite, puissent s'inspirer de ce qui est fait à Nantes afin de commémorer à sa juste mesure un événement constitutif de l'histoire de France.
Isabelle Bonny-Clavry, l'invitée d'honneur de la ville de Nantes pour commémorer les mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. La réalisatrice du film documentaire « Trop noire pour être française » et la petite fille d'Alphonse Bonny, magistrat ivoirien dans la France coloniale des années 30. Aux côtés de la politologue Françoise Vergès, Isabelle Bonny-Clavry arpente les quais de Loire, d'où sont partis 43% des expéditions négrières de l'Empire français. Toutes les deux sont guidées par Laurence Dane.
Vous me suivez? Je voulais commencer ici parce que le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes commence ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en face du palais de justice avec la passerelle Schœlcher, hein, qui sont des constructions récentes. Et c'est effectivement un quai important de Nantes. C'est là où se trouvait le port de Nantes du XVIIIe siècle. Donc parmi ces maisons que vous voyez ici, vous aviez des hôtels particuliers qui appartenaient à des armateurs nantais.
Alors ces belles demeures, hein, puisque ce sont des grands hôtels particuliers du XVIIIe siècle, ont été construits ou ont été habités par les négociants.
Bertrand Guillet, directeur du musée d'histoire de Nantes.
Donc les négociants coloniaux, ceux qui vont se spécialiser dans le commerce colonial et qui vont armer tous les navires pour le commerce colonial et particulièrement pour la traite des Noirs.
Quand on parle de ces armateurs, est-ce qu'il faut les considérer comme des aventuriers ou plutôt comme des capitaines d'industrie?
Essentiellement comme des capitaines d'industrie, parce qu'on parle de l'armateur négociant qui envoie son navire, mais il n'est pas tout seul à avoir participé au financement du navire. Il y a en amont une économie aussi globale de l'armement et du financement. Donc ce sont d'autres négociants, ce sont d'autres patrons d'industrie, ce sont des bourgeois, ce sont des aristocrates, ce sont des banquiers, c'est même des petites gens qui vont participer à l'armement du navire.
Le mémorial en fait, de l'abolition de l'esclavage de Nantes fait 400 mètres de long. Et c'est vraiment inviter les gens à faire un cheminement mémoriel, hein, à se rappeler, à se souvenir. Et donc on va circuler au milieu de petites plaques au sol où volontairement vous avez des inscriptions qui flottent. Donc ici on a indiqué la grue, navire négrier. Et on évoque sa date de départ de Nantes en 1775. Il y a 1210 petites plaques qui vont évoquer en fait les voyages de traite qui ont été réalisés à Nantes. Et puis vous en avez 300 autres qui vont évoquer plutôt des lieux en lien avec la traite, que ce soit des lieux européens ou des lieux sur les côtes africaines ou des lieux aux Antilles. Et volontairement, les artistes ont voulu que l'écriture en fait flotte pour évoquer à nouveau ce rapport à l'eau.
Isabelle Bonnet-Clavry, vous arpentez ces quais le long de la Loire, le long de cet ancien port négrier de la ville de Nantes, avec la politologue Françoise Vergès, guidée par Laurence Dane. À quoi vous pensez? Que ressentez-vous?
La scénographie est faite de telle façon qu'on a l'impression, effectivement, d'entrer dans la cale d'un bateau. Il y a quand même un peu cette idée-là, avec des plafonds très bas en bois, la proximité de l'eau. On est au niveau de la Loire. Et donc, effectivement, j'essaye de refaire un peu par l'imagination cette immersion, et qui est prolongée par les textes qui sont proposés, qui sont souvent des textes très forts et beaux, très beaux.
Vous allez voir émerger en fait une partie en oblique, hein, comme une ligne brisée. Alors cette ligne, elle va évoquer en fait les gens qui, par leur travail, vont lutter pour mettre fin à l'esclavage, hein, puisque l'idée dans l'espace méditatif, c'est de mettre en valeur tous les gens qui ont travaillé à la défense des libertés et à la fin de l'esclavage. Là, on va descendre. Alors, je vous laisse peut-être, Françoise, présenter les choses.
On a retrouvé des lettres qui sont envoyées par les esclaves au gouverneur des îles ou aux autorités coloniales. Donc on voit que les esclaves ou les libres de couleur qui ont été esclaves écrivent en fait.
Françoise Vergès, ici à Nantes, vous êtes une passeuse d'histoire, puisque vous présentez à Isabelle Bonnet-Clavry, qui est l'invitée d'honneur des commémorations du 10 mai cette année, ce mémorial qui vous est cher.
Tant que les histoires ne sont pas inscrites, tant qu'elles n'ont pas été adoptées, comprises comme faisant partie de l'histoire du monde et du monde qui nous entoure, les choses restent mystérieuses et opaques. Or, l'histoire de la traite et de l'esclavage, dit colonial, c'est-à-dire celui qui est entre le 15e et le 19e siècle, sont absolument fondamentales pour comprendre à la fois l'histoire de l'Europe et du monde, et la manière dont, évidemment, ça a frappé l'Afrique, les Amériques, les Caraïbes. Et ce mémorial est une inscription. Il offre une petite, comme je le dis souvent, une petite bibliothèque anti-esclavagiste. Il montre, à partir de cette collection de textes, qui sont des extraits de poèmes, des extraits de romans, des déclarations juridiques, des déclarations philosophiques, d'économistes, enfin tous ces extraits qui sont en anglais, en français et en créole haïtien, guadeloupéen, martiniquais, haïtien, réunionnais, toute la manière dont ça s'est inscrit déjà dès les premières années. Dès qu'il y a eu traite et esclavage, il y a eu un combat anti-esclavagiste qui s'est en fait exprimé par des mots. Par des mots, ces mots n'étant pas nécessairement dans l'écrit, dans le livre, mais aussi par le chant, par la prière, et que donc ce désir inassouvi de liberté a toujours été là.
Ce qui est très intéressant et ce que l'on découvre à l'intérieur du mémorial, lorsque l'on déambule dans ce grand espace qui invite à la méditation et à la lecture de ces différents textes, c'est qu'effectivement il y a cette mémoire orale, notamment africaine, à travers une déclaration, entre guillemets, des droits de l'homme, mais qui serait la déclaration du Mandé. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, cette déclaration daterait du XIe siècle. Elle aurait été transmise oralement, surtout. Et elle montre que, donc, très tôt, puisqu'on parle très souvent de la traite et de l'esclavage intra-africain, qu'il y a une déclaration que nul ne peut être mis en esclavage. Et que c'est une déclaration, déjà, d'universalité du droit à la liberté. Donc, c'est très important de voir que l'idée de la liberté, elle n'est pas européenne. Elle ne n'est pas avec l'Europe ou ce qu'on pense simplement la philosophie des Lumières. Elle est absolument partout et déjà donc sur le continent africain au XIe siècle.
Ce qui veut dire, Françoise Vergès, que cette déclaration du Mandé viendrait contredire L'idée reçue selon laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme est une émanation des Blancs, ne s'adresse qu'aux Blancs et ne concerne que les Blancs.
Tout à fait. Déjà, de toute façon, quand il y a la Déclaration des droits de l'homme au moment de la Révolution française et que l'article dit « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », l'esclavage existe encore. On le sait, en 1791, il y a eu le début de l'insurrection haïtienne et en 1793, la première abolition à Saint-Domingue et en 1794, l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. Mais en fait, au moment où cette déclaration est faite, il y a encore des esclaves. Et on voit bien que cette universalité des droits n'est pas respectée. Donc ce texte du Mandé, c'est de montrer qu'en fait, il y a aussi sur le sol africain, comme il y a eu sur le sol asiatique, l'idée d'une universalité des droits.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Article 4, Déclaration universelle des droits de l'homme, nation unie, 10 décembre 1948.
Alors ça, c'est un des textes qui parle le plus aux jeunes, comme ceux que vous avez rencontrés ce matin, voilà, qui sont souvent très, voilà, qui prennent beaucoup en photo.
Oui, mais ils n'ont pas pensé.
Il y a Bernie Spear aussi qui a fait beaucoup de, qui a fait tout un album entier sur l'esclavage.
Et Bob Marley, vous vous souvenez, il y a une des couvertures de ces 33 tours qui a la photo du Brooks, la fameuse photo du bateau négrier. Et on voit donc la circulation de cette image encore au XXe siècle qui est reprise et qui est constamment reprise. Et la force de cette image qui montre ce que c'était vraiment de manière très, très claire et profonde ce qu'a été la traite.
C'est vrai que quand je pense esclavage, chanson, je pense d'abord à Burning Spear qui a fait tout un album sur l'esclavage, sur la libération des esclaves, sur Marcus Garvey. Et pour moi, si on va chez Bob Marley, c'est vrai que chez Bob Marley, il y a pour moi cette chanson emblématique qui est 400 Years et qui parle justement très directement de l'esclavage.
400 Years.
Oui.
De Bob Marley. Discrimination du peuple noir, chantée par Bob Marley, c'est la question du racisme anti-noir. Au centre des commémorations, des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, ici, dans la ville de Nantes, idéalement située à 55 km de l'océan Atlantique. L'historien Bertrand Guillet, directeur du musée d'histoire, nous éclaire sur le statut de l'esclave dans le commerce triangulaire.
L'esclave est essentiellement un produit, hein. C'est une marchandise. Hein. C'est pas la marchandise du départ, puisque le navire négrier part avec d'autres marchandises.
Lesquelles ?
Alors, principalement du textile. Hein. On a un petit peu tendance à avoir caricaturé la traite, et finalement, de se dire le coût d'un esclave, c'est de la pacotille, ce fameux terme de la pacotille. Mais la pacotille renvoie à quelque chose de très particulier qu'on appelle le petit paquet. Ce sont les petites choses qui vont servir à négocier l'esclave. Mais on négocie essentiellement l'esclave avec le grand paquet. Et dans le grand paquet, nous avons principalement des textiles. Donc l'esclave est échangé et monnayé principalement part du textile et ils coûtent très cher puisque ce sont des cargaisons extrêmement onéreuses.
À l'époque, Bertrand Guy, on n'a pas de photographie, mais on a des peintures. Comment on peut s'imaginer en bas de ces immeubles et en bord de Loire, ce port négrier, à quoi il ressemblait? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se promène, lorsqu'on fait ce trajet de la passerelle Schellcher jusqu'au mémorial de l'abolition de l'esclavage, on est sur les quais de Loire. On ne réalise pas forcément qu'à l'époque, c'était un port avec des bateaux. À quoi ça ressemblait? Quelle activité était...
Alors c'est une question intéressante, originale, puisqu'on a essayé de la transposer dans le musée. Puisque finalement, comment caractériser ce qu'était un grand port colonial au XVIIIe siècle? D'abord, beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, beaucoup de langues étrangères. C'est ce qu'on a essayé de mettre dans le musée. On entendait de l'anglais, l'irlandais, de l'allemand, du hollandais, du suisse, du basque, etc. Les échanges étaient mondialisés, donc toute cette population était là, pour justement commercer. Et ce qui caractérise finalement aussi le commerce négrier, celui de la traite des Noirs, c'est que quelque part, en partant de l'aubergiste, du marin, du cordier, du fabricant de bateaux, du sculpteur sur le bateau, du capitaine, des armateurs, des vendeurs de farine, des fabricants de tonneaux, tous quelque part participaient indirectement à cette économie. Donc tous se rencontraient plus ou moins sur le port. Alors évidemment, le grand maître d'œuvre de l'armement, c'est le négociant. Mais derrière, c'est toute une population, c'est toute une ville qui est impliquée dans ce commerce négrier.
C'est sur les lieux mêmes de l'ancien port négrier de Nantes que le mémorial de l'abolition de l'esclavage est érigé. Un monument dédié à la lutte pour l'abolition de l'esclavage, porteur de messages de liberté dans les langues européennes, américaines ou africaines. Des textes choisis par Françoise Vergès en 2013, où l'on retrouve notamment les mots de l'intellectuel martiniquais Aimé Césaire.
L'histoire nous a fait, c'est ce que disait Césaire, quand il disait c'est irréparable, ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de réparation à voir, ça veut dire c'est arrivé. C'est une histoire, on ne va pas revenir en arrière. L'Afrique a été un continent de civilisation et de culture absolument extrêmement développé. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas du tout de domination de l'Occident. Et cette domination est rendue possible justement par l'esclavage, à la fois par les mines d'argent qui fait qu'ils ont la main sur l'argent qui devient la monnaie d'échange, et d'autre part par l'accumulation de richesses qu'ils obtiennent grâce à l'esclavage et à la traite, alors que jusqu'au XVIIIe siècle, la Chine était aussi riche que l'Europe et l'Afrique, il y avait des royaumes qui étaient aussi riches. Donc on voit ce basculement, il s'opère aussi économiquement grâce à cette richesse accumulée par la conquête des Amériques, le génocide contre les peuples indigènes et l'accumulation de richesses qui se fait, notamment les mines d'argent qui sont extrêmement importantes, qui vont permettre de répandre l'argent. Et qui va devenir donc une monnaie. Et ensuite, le sucre, le tabac, le chocolat, le café, qui vont devenir aussi des marchandises de plus en plus prisées en Europe et qui vont être extrêmement démocratisées et qui vont faire qu'il n'y a plus non plus de vie sociale en Europe sans ces produits. Très rapidement, vous n'avez pas de mariage sans gâteau de mariage, le café et le sucre donné à la classe ouvrière, et tout ça, les conditions de production sont évidemment complètement masquées. Au XVIIIe siècle, il y a une séparation qui s'établit entre la consommation et la production, qui devient vraiment au cœur du système capitaliste. Le lien n'est pas fait avec le système de la plantation et la déportation de millions d'Africains année après année, année après année, année après année. Donc aujourd'hui, nous sommes descendants de cette histoire. Cette histoire est la nôtre, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour la réparer?
Comment vivre ensemble avec l'histoire de l'esclavage en héritage? C'est à suivre dans La Marche du Monde, en reportage à Nantes, avec la politologue Françoise Vergès, mais aussi Isabelle Bonnic-Lavry. Elle est l'invitée d'honneur de la journée du 10 mai. Nous suivons la réalisatrice du documentaire « Trop noire pour être française » à l'école de la Deuxième Chance.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde, en reportage à Nantes pour la journée du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Nous retrouvons Isabelle Bonnic-Lavry à l'école de la Deuxième Chance, puisque la réalisatrice de Trop Noire pour être française est l'invitée d'honneur d'une ville qui affronte son passé, avec comme thème cette année le racisme anti-noir.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Medjian, directeur enchanté.
Bonjour à tous. Nous accueillons Madame Isabelle Bonnet-Clavry dans le cadre de la commémoration d'abolition de l'esclavage. Vous avez pu voir le documentaire qui est un peu l'objet de cette venue. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'échanger vos impressions avec Madame Bonnet-Clavry autour de ce que vous avez vu et de ce que vous ressentez dans votre quotidien, s'il y en a. En tout cas, je souhaite malgré tout qu'on applaudisse Madame Bonnet-Clavry.
Moi, dans un premier temps, je veux juste vous dire que je suis très contente de vous rencontrer et que ce film, effectivement, je l'ai fait aussi pour qu'il puisse susciter des débats, permettre des questionnements, à la fois pour les personnes qui vivent la discrimination et leur permettre peut-être justement de voir qu'elles ne sont pas seules et aussi de mieux comprendre les mécanismes de ce dont elles souffrent, et aussi pour les personnes qui n'en sont pas victimes et leur donner des outils pour comprendre ce que peut vivre une partie de la population française.
Ma mère avait d'abord envisagé d'être comédienne.
Je voudrais quelque chose vraiment très effrayant, qui soit très africain.
Le rôle le plus intéressant qu'on lui proposa fut celui de Chérie Noire, créée au théâtre par Marpessa Donne en 1961.
Est-ce que je pourrais la voir?
De quel pays êtes-vous?
Balikou.
Balikou?
Dans l'océan Indien.
Ah, dans l'océan Indien, bon. Vous parlez très bien le français.
Bon missionnaire, mon interprète, monsieur.
Ah bon, parce que votre peuplade a été convertie par les missionnaires.
C'est ça.
Ah, oui, oui. Qu'est-ce que vous mangez?
Moi, j'aime les choses vivantes.
Ma mère préféra devenir journaliste.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Les principaux titres de ce journal. Préoccupation de la Commission du Parlement européen pour les pays africains devant le retard apporté à la ratification de la nouvelle convention de Yaoundé.
Elle fut la première journaliste d'origine africaine à interviewer un chef d'État français. Cela lui valut une double page dans Jour de France et quelques commentaires élogieux. Daniel Bonnet-Clavry nous vient de la Côte d'Ivoire. Autant dire que sa séduction se moque du bronzage. Elle aura toujours un coup de soleil d'avance sur toutes les autres parisiennes.
One of these mornings.
En fait, je vois ce que le racisme concerne que les Noirs. Parce qu'on sent aussi que les Arabes aussi, ils sont un peu mis à l'écart. Moi, je pense qu'avec les Arabes aussi, il y a un peu du racisme, quoi. Pas forcément qu'avec les Noirs.
Moi, j'ai fait le choix dans mon film de parler des Noirs, donc c'était vraiment un choix. Mais il est évident que ce racisme, il touche toutes les minorités, ce qu'on appelle les minorités ethno-raciales, c'est-à-dire qui, à la fois, viennent d'un groupe culturel différent. Donc, c'est évident qu'il y a un racisme extrêmement fort à l'encontre des personnes d'origine maghrébine en France, qui est redoublé par de l'islamophobie. Et donc, je pense qu'effectivement, en ce moment, le premier groupe cible du racisme, c'est bien évidemment les populations arabes. Après, simplement, les origines de ce racisme ne sont pas les mêmes. Et moi, ce que je voulais analyser, c'était aussi comment s'est construit le racisme anti-noir, où il prend ses origines, et quelle forme de stéréotype, quelle forme de racisme il produit.
Qu'est-ce qui vous séduirait si on vous devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça...
En 2010, quand l'affaire Guerlain a éclaté, j'en ai eu ras-le-bol de cette stigmatisation au quotidien. Moi qui n'avais jamais éprouvé le besoin de militer, j'ai créé un groupe sur Facebook. Moi non plus, je veux pas bosser comme un nègre. Et j'ai appelé un rassemblement citoyen. Une semaine plus tard, nous étions plusieurs centaines devant le magasin Guerlain des Champs-Élysées. À notre tour, on s'est lâché.
As we enter, come the critic of one of the biggest adventure. Must be the picture that you ever thought you could touch our credentials. What's the addition? UB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint heroes. It is truth, we big news, we hood heroes. For us the anchor, we come to conquer. Switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution.
revolution rivals, written a lot like two Obamas.
Est-ce que les jeunes générations sont plus ouvertes d'esprit que leurs parents ?
C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous trouvez que vous êtes plus ouvert d'esprit que vos parents ?
Je trouve que ça évolue de mieux en mieux, oui.
Oui ?
Je trouve. C'est pas encore ça, mais de mieux en mieux. Est-ce que vous, personnellement, vous avez constaté un changement de mentalité raciste ?
Même quand on consciemment on ne se pense pas ou on n'a pas en tout cas l'intention d'être raciste, il y a des tas de façons en fait de l'être, et souvent parce que on intègre tout simplement ce qui se dit, ce qui se pense autour de nous, et que effectivement en France la question raciale est encore très taboue. La France a beaucoup de mal avec son histoire coloniale. Parce que effectivement, la patrie des droits de l'homme, c'est un peu difficile aussi de dire qu'on allait asservir des peuples. Là, encore du mal avec, pour les mêmes raisons aussi, avec son passé esclavagiste. Et donc, on préfère un peu mettre un tapis dessus. Mais du coup, on se rend pas compte et on continue de fonctionner sur des schémas de pensée très anciens et souvent racistes. Et c'est ce racisme-là qui est le plus fort aujourd'hui. Et je pense, pour répondre à votre question, que pour le faire diminuer, ça passe énormément par, effectivement, de l'éducation, faire entrer l'histoire des minorités dans l'histoire de France. C'est aussi de l'éducation à l'image, c'est de l'éducation aux stéréotypes. Voilà, prendre conscience de tout ça. Et après, moi, ce que je trouve qui change beaucoup, c'est que justement, maintenant, les gens de votre génération, notamment donc ceux qui ont des parents ou des grands-parents qui sont venus d'ailleurs, me semble, se sentent, là encore, c'est à vous de me dire, mais se sentent pleinement et totalement français. Et d'ailleurs, je pose la question, est-ce que vous sentez être français ?
Moi, je pense qu'on se sentira jamais comme un vrai Français, parce que de toute façon, rien que par notre couleur, déjà, c'est sûr. Et puis, il y a la moitié de la population qui nous accepte et d'autres pas. Donc, jamais on pourra se sentir français. Peut-être par les papiers, mais pas vraiment comme un vrai Français. Après, la France, j'ai grandi ici, du coup, j'ai mes repères un peu, on va dire, ici, plus que même qu'en Afrique, parce que j'ai grandi là. Mais sinon, après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, le racisme, tout ça, on est confronté à ça, et ça ne donne pas forcément envie de rester là. Après, ça change en fonction des villes ou en fonction des régions. En tout cas, ici à Nantes, déjà, ça va, parce qu'avant, j'habitais à Paris et le racisme, on le ressent plus.
Moi, je pense que ça me rend triste, en fait, de voir que certains ici qui sont nés sur le territoire français, qui ont des parents français, ne se sentent pas français. Je pense que c'est à nous, d'abord, de nous sentir français parce qu'on a des droits, qu'on est né ici, qu'on a des parents qui ont la nationalité française. C'est à nous, d'abord, d'être français et de se sentir français si certains... Si certaines personnes n'ont pas envie de nous voir comme des Français, malheureusement, ça les regarde. Mais en soi, à partir du moment où on a certains droits, où on est né ici, on a des parents qui sont français, on devrait se sentir français. Je pense que c'est du coup à nous d'abord de nous sentir français. Enfin, c'est pas à nous, en fait, de ne pas nous sentir français, de ne pas nous sentir à notre place. Et si les autres ne nous acceptent pas, c'est que ce ne sont pas des personnes très intéressantes et il faut les laisser de leur côté. Mais on a tous des droits et voilà, on est français. On est français, quoi.
Bon, en tout cas, on va vous remercier pour votre participation. Puis,
merci à vous.
Merci à vous.
Je vous en prie. Puis,
on vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour la commémoration. En tout cas, merci à vous.
Merci à vous.
Isabelle Bonnic-Lavry, est-ce que vous qui vous interrogez justement sur le racisme anti-noir, vous avez besoin de revenir à l'histoire de l'esclavage pour mieux comprendre de quoi il s'agit?
C'est un moment source. À partir de là, effectivement, que s'origine ce racisme, on se rend compte, et c'est rappelé par tous les historiens, qu'avant l'esclavage massif des Africains, il n'y avait pas de racisme spécifique à l'encontre des Noirs. Donc c'est vraiment une création, sans doute aussi pour justifier l'innommable, l'abominable. Donc on peut le faire puisque ce ne sont pas tout à fait des hommes. De la même façon qu'au moment de la colonisation, le discours, et discours politique aussi, qui est tenu par les hommes politiques, notamment français, c'est on peut les coloniser, on doit les coloniser, c'est un devoir pour nous, puisqu'ils ne sont pas assez civilisés. En réalité, on sait que la colonisation, comme avant l'esclavage, répondait à des impératifs économiques et à des stratégies géopolitiques d'expansion des puissances européennes.
Réfléchir aux conséquences de la traite et de l'esclavage sur la société française d'aujourd'hui, c'est ce que propose la ville de Nantes en donnant la parole à l'une des plus grandes spécialistes de la traite négrière, l'historienne Catherine Cochry-Vidrovitch.
Quand apparaît le préjugé anti-noir ? Ben, il apparaît à partir du moment où un commerce des esclaves avec le monde subsaharien devient important. Et la première trace qu'on en ait, on n'est pas tout à fait sûr, parce que c'était raconté par un chroniqueur arabe du Xe siècle, mais ce serait un contrat dressé par un émir du nord de la Nubie pour payer un tribut annuel de l'ordre de 200 ou 300 esclaves par an. C'est la première trace que l'on ait d'une traite organisée. Alors, ce qu'on appelle la traite des esclaves, c'est à ne pas confondre avec l'esclavage. La traite des esclaves, c'est un mot ancien pour dire le commerce des esclaves. Le commerce des esclaves, c'est quelque chose. L'esclavage, c'est un statut. On pratique le commerce des esclaves quand on a déjà créer des esclaves, c'est-à-dire qu'on s'en est emparé dans des pays étrangers, soit par conquête, soit par razzia, soit par achat, par rap, toutes les formes sont possibles et imaginables, ceci a toujours existé. Mais la première fois que l'on trouve véritablement une traite des Noirs, ça serait à la fin du 7e siècle, avec le début de la traite arabe. Et ceci étant, le racisme, lui, va se développer, le racisme anti-noir, et ça n'est pas un hasard, c'est parce qu'au XVIe siècle commence à se développer très sérieusement la traite des esclaves africains, l'esclavage atlantique. Et la grande nouveauté de l'esclavage atlantique, c'est qu'il devient intégralement noir à partir de la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle et en particulier au XVIIIe siècle. Pour l'Atlantique, tout esclave ne peut être que noir, et par extension, tout noir, finalement, n'est bon qu'à être esclave. La traite esclavagiste, elle est maximale entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Pendant ces deux siècles, le commerce, la traite des esclaves n'a pas été exclusivement le fait des Européens. Il y a eu une collaboration commerciale, comme il y a toujours des collaborations commerciales entre les intérêts politiques et financiers entre différents partenaires. Eh bien, vous avez des partenaires africains qui, d'une certaine façon, jouent le jeu de l'économie dominante de l'époque, à une époque où tous ces formations politiques africaines, il faut bien se souvenir, sont indépendantes. Et vous avez au XIXe siècle des correspondances de roi à roi. C'est-à-dire que vous avez des chefs africains qui écrivent à la reine Victoria ou qui écrivent au président français pour poser leurs conditions, etc., etc. Donc c'est une histoire extrêmement complexe. Il n'empêche qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a tellement d'esclaves noirs dans le monde occidental que le mot nègre a pris le sens au XVIIIe siècle d'esclave noir. C'est pas la peine de dire esclave, quand on dit nègre, ça veut dire esclave noir.
Les esclaves noirs du commerce triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques sont principalement des hommes, mais les femmes et les enfants sont également déportés, comme en attestent les textes inscrits au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, proposé par celle qui a été la première présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Françoise Vergès.
Ça, c'est un des premiers textes écrits par une femme.
D'accord.
Il y avait les textes écrits par et Kouyano, mais parmi les premiers textes écrits par une femme, il y a celui de Mary Prince. Ce qui était important, c'est qu'elle écrit sur son enfance aussi, donc quand elle est petite fille esclave, et on voit qu'être petite fille ne la protège pas du tout des punitions, que sa maîtresse la bat tout le temps pour un oui et pour un non, et que cette petite fille ne comprend pas, parce qu'elle essaye d'obéir, il y a toute une partie qui est sur son enfance, et elle essaye de comprendre, elle essaye donc de bien travailler, enfin de faire ce que lui demande sa maîtresse. Elle est constamment battue et il y a toute une réflexion sur l'inévitable violence de la relation de maître à esclave.
tout au long de cette déambulation aux côtés d'Isabelle Bonny-Clavry, que vous initiez en quelque sorte à ces textes fondamentaux de la mémoire de l'esclavage et surtout du combat contre l'esclavage et de sa victoire à travers l'abolition. Vous êtes arrêté notamment sur le texte d'une femme. Il y a peu de textes écrits par des femmes, une femme qui témoigne notamment de son enfance.
C'est le texte de Mary Prince, qui est donc une jeune femme de la Barbade, une jeune noire déportée de la Barbade. Et à travers aussi ces textes que je voulais rappeler, c'est que ce sont les esclaves, les captifs, qui sont les premiers anti-esclavagistes. Ce sont les premiers à articuler une pensée qu'on appellerait abolitionniste. Et donc cette petite fille, elle raconte qu'elle ne comprend pas pourquoi, quoi qu'elle fasse, elle est constamment battue et punie. Et ça révèle une des choses au cœur de l'esclavage, c'est-à-dire la violence et la brutalité de la relation. Comme si les propriétaires ne pouvaient pas s'empêcher, à un moment donné, de frapper, d'humilier, de punir, de vraiment de torturer. C'est ce que Frédéric Douglass dira, c'est ce que tous les esclaves qui peuvent écrire ou témoigner diront. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effet retour ou un effet boomerang, comme disait Césaire, de ce qu'on accomplit. On ne peut pas, Césaire parlait du colonisme en disant on ne colonise pas innocemment ou impunément, on n'esclavagise pas innocemment ou impunément. Ça fait retour. Ça contamine, ça va contaminer la démocratie, ça va contaminer la manière dont l'Europe se pense, la manière dont l'Europe se représente. Ça ne sera pas innocent. En fait, tout ce qui a été construit en Europe, l'État, le droit, la démocratie, la pensée, a été contaminé par ces siècles d'esclavage et ensuite de colonialisme.
Allez les jeunes, on avance là!
Tony Mango, donc professeur de créole, un des deux seuls professeurs de créole en France, en voyage à Nantes avec sa classe de Créteil. Quelle est la motivation de ce groupe pour être ici aujourd'hui 10 mai, pour la commémoration de la mémoire de l'esclavage?
C'est une date extrêmement importante. Après en avoir parlé, après en avoir discuté, avoir travaillé dessus en classe, se rendre compte véritablement de ce que ça peut représenter dans une ville comme la ville de Nantes.
Vous avez un groupe de combien d'élèves et ils ont quel âge?
Ce sont des élèves de seconde et de première, donc ils ont entre 14 et 16 ans à tout casser, avec des jeunes qui sont pour la plupart créolophones, mais pas tous. Certains ne sont pas du tout créolophones, mais voilà, ils avaient un intérêt particulier pour la langue, donc ils l'ont pris comme une matière normale et ils se sont inscrits. Donc j'ai des jeunes d'origine antillaise, caribéenne, mais aussi française, et puis même d'autres lieux d'Europe.
Les Antilles, c'est la France, non?
Absolument. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les élèves ont compris la démarche de cette matière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une matière qui est uniquement réservée aux créolophones. C'est une matière comme une autre. Et quand on vient en classe de créole, évidemment, on apprend à parler, à communiquer en créole. Mais on travaille autour de la civilisation, de la culture, de l'histoire, de la géographie. Enfin, on visite toutes les possibilités offertes pour la découverte des civilisations, et en particulier des civilisations créoles.
Alors quelques mots en créole peut-être pour nous annoncer la suite du programme.
Mais là, nous tout près, la cérémonie là qui a commencé. Et on a espéré tout le monde là, ça a passé bien. C'était la tenante, il a appelé qui était tombé. Et mais soleil là ouvre. Alors si soleil ouvre, ben tout le monde là qui est content.
C'est vrai qu'on a de la chance, la pluie s'est arrêtée ici à Nantes. Il y a maintenant le soleil. Et présentez-moi...
Marine.
Bonjour Marine.
Bonjour.
On peut parler créole, on est sur RFI, on peut parler créole aussi.
Pas encore, je suis pas encore arrivée à ce niveau. Ma maman, elle est guadeloupéenne et elle m'a pas vraiment parlé créole dans mon enfance. Mais parfois, elle me disait quelque chose et surtout ma famille maternelle, bah, je comprends. Mais je parle pas vraiment.
Qu'est-ce que vous découvrez ici à Nantes?
Bah, ici, je pense avoir découvert plein de choses sur ce qui s'est passé à l'origine. De mes racines, on va dire. Parce que la traite négrière, qui a été très présente ici, ben, c'est une racine importante qui arrive au créole et qui arrive jusqu'à nous. Donc j'ai découvert plein de choses sur mon passé.
Est-ce que dans votre famille, on se raconte cette histoire-là, cette histoire de l'esclavage de génération en génération?
On n'en parlait pas tellement.
parce que mon père, lui, est directement africain et ma mère est antillaise, mais on parlait pas vraiment de ce genre d'histoire. Et c'est pour ça qu'en allant en créole, bah, j'ai voulu apprendre tout ce genre d'histoire. Et ici, à Nantes, j'ai pu réussir à comprendre plus de choses.
Marine et sa classe ont pris leur place dans le protocole des commémorations. Depuis la passerelle Schœlcher, ils s'apprêtent à jeter à l'eau des pétales de fleurs en hommage aux 500 000 esclaves déportés par les navires nantais au XVIIIe siècle, lorsque la traite était légale. Un chiffre qu'il faut sans doute multiplier par deux, car au XIXe siècle, Nantes devient le premier port de la traite illégale.
Alors j'ai mes élèves qui sont là, qui essayent en même temps qu'ils lancent ces fleurs dans ce fleuve de prendre des photos pour garder ce moment-là. Parce qu'en même temps, c'est un vrai moment de partage, c'est un moment difficile, mais c'est un vrai moment de partage. C'est un geste symbolique, c'est un geste qui doit leur permettre d'avoir un court instant, un moment de rapprochement, un moment d'intimité avec leurs grands-parents ou les parents de leurs grands-parents, leurs ancêtres, et se rappeler que ce fut une véritable tragédie et que plus jamais ça ne doit se répéter. On en a beaucoup parlé un peu avant, donc ils tenaient à participer à ce geste-là.
Vous participez, Isabelle Bonnet-Clavry, aux commémorations officielles du 10 mai, ici à Nantes. De quoi allez-vous parler? Sur quoi allez-vous mettre l'accent?
Ah ben vous verrez quand je ferai mon discours tout à l'heure. Je vous laisse découvrir ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui? Pendant longtemps, et Jules Ferry l'affirmait encore en 1885, ou plus près de nous, le général de Gaulle en 1959, être français, c'était être blanc. Aujourd'hui, cette définition n'est plus possible, et pourtant, dans les faits, c'est celle qui continue d'irriguer notre société. Alors qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? On parle beaucoup de diversité. Moi, je préférerais utiliser le terme d'inclusion. Comment la France inclut-elle dans le creuset national toutes les composantes de sa société? Comment inclut-elle les descendants d'esclaves? Comment inclut-elle les anciens colonisés aujourd'hui devenus français? Comment fait-elle de ces blessures de nouvelles lignes de force? Je terminerai sur ces questions.
Nantes se souvient de son passé négrier. C'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité du Cœur d'enfants, du collège Gaston Serpette, l'association Etika, ainsi que tous les participants aux commémorations du 10 mai 2016 à Nantes. Et je vous signale que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le mémorial de la ville de Nantes et son musée d'histoire sur le site levoyageanantes.fr. N'hésitez pas à vous exprimer sur la page Facebook de l'émission, réagissez, podcastez cette émission. C'est la vôtre. Yes, why? Ahuna ya twana.